Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
On va juste reprendre là où on était resté. Actuellement, verset 12. En fait, on nous parle ici de certains croyants qui étaient en Samarie. Et il est dit là au verset 12, « Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Simon lui-même crut après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. » Donc jusqu'à présent, ils ont reçu l'Évangile, ils ont été baptisés, il y avait même des miracles, mais nous suivons, verset 14, des apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Donc là encore, ça vient confirmer que le fait d'avoir cru à Jésus, le fait d'avoir accepté l'Évangile et même d'avoir été baptisé d'eau, c'est une première dimension, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et quand les autres ont vu ça, Philippe était venu évangéliser, il a prêché, il a laissé les gens comme ça. Maintenant, les apôtres, eux, ont envoyé Pierre et Jean pour que ces gens-là puissent aussi recevoir le Saint-Esprit. Donc on voit que dans l'esprit des apôtres et dans l'église primitive, c'était la suite normale des choses. Hein, les gens se convertissaient, les gens étaient baptisés, et puis ils recevaient le baptême du Saint-Esprit. Et on voit que lorsqu'ils viennent et qu'ils leur imposent les mains, ils reçoivent tout simplement le baptême du Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'ils se bagarrent, je ne dis pas qu'ils font beaucoup d'histoires, simplement ils viennent, ils prient pour eux et les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Donc on voit que même si les gens ont cru, ils ont été sauvés, ils ont eu le Saint-Esprit en eux, comme les disciples dans Jean 20, 22, Jésus souffla en eux le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit sur eux. Ils n'avaient pas encore cette deuxième dimension, si on peut dire, cette deuxième onction qui est le baptême du Saint-Esprit. Hein, la première onction dans le Nouveau Testament, c'est la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit vient en eux. On passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, toutes choses sont nouvelles. Deuxième onction, baptême du Saint-Esprit, c'est une dimension encore supérieure. Et là, on voit vraiment clairement que c'est deux expériences distinctes. Alors, on peut, quelquefois, donner sa vie à Christ, naître de nouveau, et en même temps, être baptisé du Saint-Esprit, c'est possible. D'accord ? Ça veut dire qu'il faut attendre un temps. Hein ? C'est parce que vous voyez là, les apôtres, ils se sont débrouillés pour venir. Bon, on ne sait pas combien de temps s'est passé, mais en tout cas, quand ils ont su que quelqu'un avait reçu la parole, ils ont dit, on ne peut pas les laisser seulement avec l'Évangile, il faut qu'on leur apporte la puissance du Saint-Esprit.
Amen.
Amen. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment deux fondements sur lesquels il faut que nous soyons profondément fondés, c'est fondés dans la parole et conduits par le Saint-Esprit. Et il faut que ça marche ensemble. Un tout seul, ça ne marche pas. D'accord ? Hein ? Et vraiment là, c'est clair encore une fois, et on voit que c'était après la Pentecôte. Ces gens-là n'étaient vraisemblablement pas présents quand le Saint-Esprit a été répandu la première fois, parce qu'ils viennent seulement d'entendre l'Évangile. Mais le Saint-Esprit leur a été donné. Pour rappeler, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que cela interviendra. Et nous, on fait partie de ces gens-là. Ok ? Ensuite, nous allons regarder dans Acte 9, juste après, et au verset 11. Acte 9, verset 11. Là, on a Paul, qui est déjà né de nouveau, parce que Paul... Un jour, alors qu'il persécutait les chrétiens, a une vision de Jésus, hein, et puis va accepter de donner sa vie au Seigneur. Et maintenant, on voit que Paul aussi va devoir recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je nous apporte au verset 11. Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui a posé les mains afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit soutenir pour mon nom. Ananias sortit, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa une main à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Amen. Donc là, on voit que Paul d'abord rencontre Jésus, et il nous dit qu'il a été aveuglé par le reflet de la gloire du Seigneur. C'est aussi une image de Paul qui avant était vraiment persécuteur de l'Église. Et remarquez que lorsque Dieu appelle Ananias à aller auprès de cet homme pour prier pour lui et qu'il reçoive le Saint-Esprit qui recouvre la vue, Ananias est un petit peu en train de discuter avec Dieu. Il dit non, mais tu sais pas que celui-là il nous persécute, qu'il nous fait du mal. Donc même si quelqu'un a un passé très peu ou très peu recommandable, même celui-là, Dieu veut lui donner le Saint-Esprit.
Amen.
Amen. Et Dieu veut baptiser du Saint-Esprit tous ses enfants et tous les instruments qu'il a choisis. Amen. Et on voit qu'Ananias vient et lui parle à l'instant même vers lui. À l'instant même, Paul est guéri, il recommence à voir, et Paul est baptisé du Saint-Esprit en même temps. Hein, il n'y a pas 36 histoires, c'est au même moment. Il vient, il prie pour lui, c'est fait, c'est bon. Ok ? Ensuite, plus loin, acte 10, encore un accomplissement de cette promesse, hein, pour vous montrer que régulièrement, la Bible nous dit qu'ils ont un tel été baptisés du Saint-Esprit. Ces gens-là ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc, pour bien vous montrer que ce n'est pas réservé seulement à un moment isolé dans l'histoire qui était la plus. Acte 10, verset 44. Acte 10, 44, on est à Césarée maintenant, et il y a des gens là aussi qui ont donné leur vie à Dieu. Verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, et il leur donna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc là on voit que Pierre est en train de prêcher, et alors même que Pierre prononçait encore ces mots, donc là Pierre il est en train de faire ses affaires, il est en train de prêcher, il est en train de s'adresser aux gens, et pendant qu'il parle, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc là, Pierre n'a même pas eu le temps, si je puis dire, de commencer à prier pour les gens pour recevoir le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est déjà descendu sur ceux qui écoutaient la parole. Hein, donc quand vous écoutez la parole de Dieu, bien aimé, vous pouvez être disposé et on peut s'attendre à ce que pendant même qu'on est en train de parler, le Saint-Esprit descend sur nous.
Amen.
Parce que c'est la promesse, c'est la volonté de Dieu, et quand il y a des cœurs réceptifs, Dieu peut le faire. Et il n'a même pas besoin qu'on fasse 36 trucs, Dieu baptise du Saint-Esprit. C'est sa volonté, c'est son désir, et comme nous sommes disposés à ça, Dieu le fait. Amen. Et il faut arrêter de croire qu'il y a 36 000 étapes à suivre pour pouvoir être baptisé. Et là aussi, les disciples qui pour l'instant étaient des juifs, se sont dit, tiens, mais ces gens-là aussi qui ne sont pas juifs comme nous, qui sont païens, eux aussi Dieu leur donne le Saint-Esprit. Et parce que ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont dit, bon, on ne peut pas maintenant les mettre à l'écart si Dieu leur donne le Saint-Esprit. Qui est-ce que nous sommes pour leur refuser le baptême, pour leur refuser de faire partie de l'Église? Donc Dieu veut répandre le Saint-Esprit sur tout le monde, sur les juifs, sur les païens, sur les chrétiens, sur les autres, tous ceux qui viennent à Jésus, Dieu veut maintenant leur donner le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu le faisait en même temps que Pierre était en train de parler. Et ça c'est intéressant, hein, parce que des fois, on est là et puis on se dit, non, il faut bien attendre qu'on vienne m'imposer les mains. C'est un des moyens que Dieu utilise, mais Dieu est capable de nous toucher directement. Hein? Ce qui est important, c'est un cœur réceptif. Et moi, très souvent, et j'allais vous dire la plupart du temps, quand j'exerce le ministère, hein, souvent on enseigne la parole, et des fois, si on prend du temps pour vraiment passer un moment dans la présence de Dieu, que Dieu agisse dans la vie des gens. Que c'est important d'associer aussi la mise en pratique et de donner à Dieu l'occasion de venir confirmer sa parole. Et souvent, je n'impose même pas les mains aux gens. Parfois, on est là, on s'attend à la présence de Dieu, on prend soin à un chant d'adoration, quoi, et on s'attend à la présence de Dieu, et pendant qu'on est là, les gens sont tout simplement touchés par où ils sont. Hein? Dieu peut faire par la position des mains, mais ce n'est pas obligatoire. Hein? Donc Dieu a plusieurs moyens de vous bénir, mais en tout cas, le Saint-Esprit est supposé pouvoir descendre sur tout croyant, mais de nouveau. À chaque fois, on voit que c'est des gens qui croyaient déjà, et puis ensuite, on leur enseigne le Saint-Esprit, et ils le reçoivent. Maintenant, acte 19, à partir du verset 3. Pendant qu'Apollos, un des apôtres, était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Ils lui répondirent : Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tout environ 12 hommes. Donc là, on voit encore que Paul arrive auprès de. Il arrive à Éphèse, il voit qu'il y a des disciples de Jésus. Hein? Donc, déjà, je ne sais pas comment il a fait pour voir. Certainement, comme on a dit avant, ça se voyait que c'était des disciples de Jésus. Hein? Certainement qu'il témoignait déjà de leur maître Jésus. Certainement qu'il reflétait déjà quelque chose de celui qui les avait sauvés. Ils étaient sauvés, parce qu'un disciple, il faut déjà qu'il soit sauvé. D'accord? Hein? On peut être un croyant, mais pas un disciple. Par contre, on ne peut pas être un disciple, mais pas un croyant. Ok? Il faut commencer par croire. Une fois que tu crois, après, tu es appelé à devenir un disciple. Ces gens-là croyaient, mais Paul leur dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Hein, il leur pose cette question. Et ça sous-entend aussi que pour Paul, c'était évident que normalement, quand tu crois, tu reçois aussi le Saint-Esprit. Ça vient avec. Ce n'est pas quelque chose que les gens étaient élevés sur une espèce de haute montagne que tu pouvais atteindre seulement après avoir fait telle chose, avoir fait tant de temps, et tout ça. Ça faisait partie, comme j'ai dit, du déroulement normal. Et ces gens-là disent, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Hein? Les gens n'avaient pas encore la connaissance de ce que c'était. Et je rejoins aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin aussi d'entendre dire ce que Dieu veut faire. Et dans notre temps, le meilleur moyen d'entendre dire ce que Dieu veut faire, c'est de lire sa parole. Hein? Et de découvrir au travers de la parole ce que Dieu désire pour nous, ce que Dieu veut manifester dans notre temps, ce que Dieu veut accomplir au travers de son Église. Et une fois qu'ils ont été enseignés, hein, Paul, il n'a pas fait non plus un grand sermon, il leur a juste expliqué. Donc, ils ont été baptisés par Jean-Baptiste. On a déjà expliqué tout à l'heure que c'était le dernier descendant des sacrificateurs qui marquait un peu la transition entre l'ancienne alliance et puis la nouvelle alliance que Jésus maintenant a inaugurée et qui nous permet de naître de nouveau et de marcher avec Dieu, de recevoir le Saint-Esprit. Donc, il leur explique Jean, il vous a baptisé pour la repentance. Il a dit de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et donc là, les gens, ils comprennent et ils disent, bon, il ne suffit pas d'être baptisé par Jean-Baptiste, il faut qu'on croit en Jésus. Hein? Les gens, ils se sont mis à croire en Jésus et ils ont été baptisés. Et ensuite, à l'imposition des mains, le Saint-Esprit vient sur eux. Et en même temps, ils parlent en langue et ils prophétisent. Donc, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et au même moment, ils vont parler en langue et prophétiser. Donc, on voit aussi que le baptême du Saint-Esprit s'accompagne d'un signe. D'accord ? Et il y aurait d'autres exemples encore, on ne va pas parcourir toute la parole, mais déjà là, au travers de ces quelques exemples, dans des lieux différents, avec des personnes différentes, on voit que le baptême du Saint-Esprit était, j'allais dire automatique, en tout cas c'était naturel qu'après être né de nouveau, qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui aussi, pour nous croyants, il devrait être naturel qu'après être né de nouveau, qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. Amen. Quand vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous êtes quand même sauvé. Mais il vaut mieux, dès aujourd'hui, sur la terre, accéder à la bénédiction que Dieu a préparée pour nous. Ok ? Hein, c'est quand même plus intéressant de vivre la puissance du Saint-Esprit, de voir la gloire de Dieu et d'avoir une vie qui est significative et qui change quelque chose autour de nous, que seulement de s'asseoir là et puis d'attendre que Jésus revienne. Hein, on l'a dit tout à l'heure, ce que Dieu nous envoie faire, ce que Jésus a annoncé, c'est le royaume de Dieu. Et ce royaume, il y a énormément de choses que nous avons besoin d'aller découvrir, d'aller saisir et maintenant d'amener à la réalisation sur la terre. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'était maintenant des choses automatique. Et à chaque fois, il était question de parler en langue. Hein? Et à chaque fois, ça nous dit, acte 10, Pierre va chez Corneille, hein? Après ça, il parle à des païens, et quand ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Dans acte 19 aussi, quand il va les faire, il leur dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils ne savent pas, et dans verset 6, ils parlent en langue et ils prophétisent. Hein? Donc c'est un signe immédiat du baptême du Saint-Esprit. Et ça aussi, bien qu'on ait pu dire beaucoup de choses sur le parler en langue ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas encore une fois à nous d'essayer d'expliquer la parole avec ce qu'on vit ou ce qu'on ne vit pas. C'est à la parole de venir influencer notre vie.
Amen.
Amen. Et si la Bible dit que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a un signe qui est le parler en langue et le fait de prophétiser, c'est-à-dire qu'il faut que nous nous attendions aussi à parler en langue et à prophétiser. Alléluia.
Hein?
Et parlons un petit peu du parler en langue, justement. Marc 16. On voit que Jésus l'a annoncé, ça, qu'il y aurait ce signe pour ceux qui croient. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils voient leur image mortelle, ils n'en feront pas de mal, ils imposeront les mains en eux, et les malades seront guéris. Hein? Donc là, Jésus le dit clairement, vous parlerez des nouvelles langues. Et dans 1 Corinthiens 14, 18, Paul va dire aux Corinthiens, moi je parle en langue plus que vous tous. Hein? C'est quelque chose qui se pratiquait, que Paul avait reçu et que Paul pratiquait dans sa vie. En fait, le parler en langue, c'est une source de puissance que Dieu nous a donnée. Hein? Le parler en langue, c'est quelque chose qui ne vient pas de nous, c'est quelque chose qui nous vient dans notre esprit et que nous laissons s'exprimer par notre bouche. Et c'est la Bible nous dit que c'est de dire des mystères. On va voir un petit peu ce que c'est que ce parler en langue. Mais bien aimé, j'aimerais vous encourager à consommer le parler en langue sans modération, à en faire un usage quotidien et même plus que ça, à chaque occasion, saisissez pour parler en langue. Et vous savez, depuis que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, que je parlais en langue, des fois on faisait ça juste à l'église, on fait ça comme ça, mais quand j'ai réalisé que quand tu parles en langue, même si tu es au travail, même si tu es en train de faire je ne sais pas quoi, tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge en toi. Sans qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe là, dans ton esprit, ça commence à chauffer. Sans que le Saint-Esprit travaille sur toi. Et tu ne sais pas ce que tu dis, tu ne sais pas ce que tu fais, mais tu sais que c'est Dieu, et tu sais que Dieu est en train de travailler. Et Dieu nous a donné ça, et c'est un don qui, si on s'appuie sur les passages bibliques qu'on a vus, accompagne le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, il y a parfois des gens qui ne parlent pas en langue parce qu'ils ont X ou Y raison de. Que ça les bloque, tout ça. Et j'aimerais que ce soit l'enseignement qu'on arrive à mieux voir comment Dieu veut faire les choses, qu'on se simplifie un peu la vie et que surtout on expérimente la puissance de Dieu. Amen.
Hein?
Qu'est-ce qui parle en langue parmi nous là? Ok. C'est bien, ça veut dire qu'il y en a pas mal qui vont recevoir.
Amen.
Si vous disposez votre cœur, vous savez, ça peut tomber comme ça. Parce que c'est la volonté de Dieu.
Amen.
Et donc, si vous le désirez, laissez juste votre cœur être interpellé par le Saint-Esprit et on va trouver l'occasion de donner au Seigneur l'opportunité de venir vous baptiser dans le Saint-Esprit et de faire parler. Amen. Hein, je vais un petit peu expliquer ça. C'est intéressant et c'est important. Donc le parler en langue, déjà c'est un signe extérieur du baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, après tout, ça reste quand même une expérience spirituelle. C'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément qu'il y a quelque chose qui nous tombe dessus, on ne voit pas forcément qu'il y a quelque chose qui a changé en vous. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que vous parlez en langue. Et dès la Pentecôte, on dit que ces gens-là parlaient selon que l'Esprit leur venait de s'exprimer. Donc on a vu que ça venait de l'Esprit, ça ne venait pas d'eux-mêmes, ce n'était pas un langage humain, c'était l'Esprit qui leur venait de s'exprimer. Et dans Actes 10, 46, les gens aussi ont compris que les autres ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Hein? Donc déjà, c'est un signe extérieur que vous avez eu le baptême du Saint-Esprit. Et ça nous donne de prendre conscience de la présence du Saint-Esprit dans nous. Hein? Parce que même si on sait qu'il est là, tant qu'on est comme ça, bon, on n'y pense peut-être pas toutes les 5 minutes, mais quand vous pratiquez ce parler en langue, ça vous aide aussi à prendre conscience et à nourrir cette communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Parce que nous sommes appelés à coopérer avec lui. Hein? Comme j'ai dit dans la parole, dit, vous recevrez le Saint-Esprit, c'est ce paraclétos, c'est cette aide, ce conseiller, celui qui nous conduit, celui qui nous coach un petit peu, qui nous entraîne, qui agit dans notre vie, et nous avons besoin de communiquer avec lui. D'accord? Et de lui donner l'occasion de faire le travail pour lequel il a été envoyé. Donc ça, c'est une chose Ensuite, c'est aussi un moyen de parler à Dieu. Et dans 1 Corinthiens 14, au verset 2, il est dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Donc, c'est un moyen surnaturel de parler à Dieu, ou de parler avec Dieu. Personne ne comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, quand vous parlez en langue, vous êtes en train de dire des mystères. C'est-à-dire des choses qui sont encore inconnues à votre intelligence et à votre connaissance. Mais en esprit, vous déclarez les mystères. Et vous savez, quand nous déclarons quelque chose, nous apprenons la chose à exister. Amen. Et donc, quand Dieu, par l'esprit, nous fait déclarer des mystères, eh bien, à chaque fois que nous parlons en langue et que nous déclarons ces mystères, nous allons aussi les appeler à se manifester et à exister dans notre vie. Hein? Donc, si nous prenons une habitude de la pratique du parler en langue, vraiment, ça va nous fortifier, ça va nous faire parler des mystères, ça va nous faire appeler sur notre vie et notre environnement la manifestation des mystères de Dieu.
Amen.
Amen. Et c'est vraiment quelque chose d'efficace et de béni. Et 1 Corinthiens 14, verset 14, toujours, il est dit « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Hein? Donc on voit que c'est pas de, ça ne vient pas de la tête, c'est dans votre esprit. Donc je vais juste faire un petit rappel ici. La parole de Dieu nous apprend, nous montre que Dieu nous a créés, que nous sommes esprit, âme et corps. Hein? Notre esprit, c'est notre vraie nature, notre vraie personne. En fait, là, vous me voyez, j'ai un corps, c'est comme ça que vous me reconnaissez. Mais ma vraie personne, moi, je suis un esprit. D'accord? Ensuite, j'ai une âme. Mon âme, c'est ma personnalité. C'est mes émotions, mes sentiments, mon intelligence. Hein? Ça, c'est ma personnalité, c'est mon âme. Et je vis dans un corps, c'est le corps physique, c'est notre enveloppe. Et nous avons tout à l'heure que Dieu veut que nous soyons bénis, sauvés, que nous soyons prospères dans tous ces domaines-là, dans l'esprit, dans l'âme et dans le cœur. Et ce que Dieu désire, c'est que nous soyons des gens qui vivons dans le domaine de l'esprit. Hein? Ce n'est pas notre âme, nos sentiments, notre intelligence qui ont le premier mot ou qui prévalent sur le reste. Normalement, c'est notre esprit qui doit prendre le contrôle et que maintenant ce qui vient de notre esprit, qui nous est communiqué par l'Esprit de Dieu, va commencer à influencer notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière de réfléchir, et automatiquement ça va avoir des répercussions sur notre corps. Ok ? C'est comme ça que ça fonctionne. Et Dieu qui nous a fait esprit, âme et corps, donc moi j'aime bien faire cette déclaration, ça aide à comprendre, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Hein, comme ça on comprend qui est qui là-dedans. C'est pas je suis un corps avec une âme et un esprit, donc c'est pas mon corps qui me dit comment ça marche. C'est pas ce que je perçois avec mes sens qui doit m'influencer, c'est ce qui vient de l'esprit. Et ce qui est dans mon esprit, ça vient de l'esprit de Dieu, parce que la Bible dit que nous avons la nature de Christ, que nous avons la pensée de Christ, et que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Le Saint-Esprit témoigne pas à mon corps, donc ce que dit mon corps, ça vient pas du Saint-Esprit. Ok ? C'est les réalités naturelles, c'est les réalités terrestres, mais ce qui doit influencer ma vie, c'est ce qui vient de l'Esprit de Dieu dans mon esprit. Et ce que dit mon intelligence non plus, c'est pas ça qui doit prévaloir. C'est pas mes émotions, mes sentiments qui font la loi. Parce que je ne suis pas une âme avec un esprit et un corps. Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Ok ?
Amen.
Donc, quand nous parlons à Dieu, c'est pas notre intelligence qui travaille, c'est notre esprit. Et là, j'aimerais vous encourager à essayer de faire un exercice, c'est de parler en langue et de penser à autre chose en même temps. Vous savez, normalement, on est capable de lire quelque chose, on est capable d'écrire, on est capable de réfléchir, on est capable de faire des choses en même temps qu'on parle en langue. Parce que le parler en langue, il ne vient pas de l'intelligence, il vient de l'esprit, et la vie dit ici que l'intelligence demeure stérile, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien. Donc si elle ne fait rien, ça veut dire que je peux être en train de lire un passage dans ma tête, dans ma pensée, en même temps que je suis en train de parler en langue. Parce que le parler en langue, il ne vient pas de l'intelligence, ce n'est pas moi qui le forme. Et moi, je vous invite à faire ce test. Et je me souviens, un jour, j'avais enseigné ça, et puis il y avait une dame dans l'église un peu âgée, elle me dit, tu sais, mais ce que tu as dit là, c'est un peu bizarre, parce que moi, à chaque fois, il faut que je me concentre, et je me concentre pour parler en langue. Elle me dit, bon, peut-être que tu as cette habitude-là, mais tu n'en as pas besoin, parce que ce n'est pas ton intelligence. Et ton esprit peut faire quelque chose et pendant ce temps, ton intelligence ou même ton corps est disponible à faire autre chose. Donc, on peut parler en langue avec notre esprit sans pour autant être obligé de ne faire que ça. Et je crois que c'est un des secrets de l'apôtre Paul qui nous permet de dire je parle en langue plus que vous tous, parce que c'est pas qu'il s'enfermait dans un coin et qu'il parlait en langue à longueur de temps, c'est qu'il parlait en langue certainement en même temps même qu'il faisait d'autres choses. Et ça, je vous invite à essayer de faire cet exercice-là. Et vous allez voir, ça fonctionne. Ça fonctionne et ça vous permet de vous fortifier en même temps. En même temps que vous faites autre chose, vous pouvez être en train de travailler, de faire votre travail correctement, vous n'êtes pas distrait, vous parlez en langue. Moi, je travaillais dans un magasin, je travaillais de nuit, tout ça, et des fois, j'étais là, et moi, je parlais en langue, tout ça, et j'étais capable en même temps de réfléchir à ma commande, tout ça, et je suis pas obligé de faire un pause dans l'un ou l'autre des activités, où tu peux faire les deux en même temps. Et j'aimerais vous dire aussi, prenez l'habitude de parler en langue, même pendant que vous faites vos activités, vous allez voir que vos activités vont être aussi marquées de quelque chose d'inhabituel. Et Dieu va vous rendre capable et efficace dans ce que vous faites, plus que si vous ne faisiez que ça, en disant, de toute façon, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Hein, on dit souvent qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps, mais moi je vous dis qu'avec Dieu, vous pouvez faire deux choses en même temps.
Amen.
Hein, vous pouvez en même temps être en communion avec Dieu et en même temps vaquer à vos occupations. Hein, d'ailleurs, la Bible dit que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et dans la notion de communion ou de demeurer avec Dieu, c'est quelque chose de permanent. D'ailleurs, la communion avec Dieu, ce n'est pas seulement quand on vient au culte ou bien même le soir à un moment précis. Oui, il faut prendre des moments où vraiment on met du temps à part pour Dieu et on est consacré ce moment-là. Mais tout le reste du temps, c'est pas qu'on est en pause avec le Seigneur, mais c'est censé être en communion permanente avec lui, même en même temps qu'on fait d'autres activités. Ok ? Donc pour revenir au parler en langue, c'est un moyen de parler à Dieu. Ça vient, c'est un langage qui n'est pas humain, c'est un langage qui vient de Dieu, c'est spirituel. Et Romains 8, 26. Il est écrit de même aussi l'Esprit vient au secours de nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est l'intention de l'Esprit, et c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc parfois, quand on ne sait pas quoi prier, quand on ne sait pas vraiment quoi dire dans la prière, eh bien le parler en langue aussi, c'est un moyen de prier selon la volonté de Dieu. Hein, parce qu'il y a des situations où on ne connaît pas tous les détails, on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'il faut prier, hein, des fois pour nous c'est un peu flou, et on veut prier pour les gens, mais bon, on ne peut pas vraiment prier n'importe quoi. Et donc des fois, quand vous ne savez pas quoi ou comment prier, c'est un prier en langue, tout simplement. Hein, parce que le Saint-Esprit, lui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et comme le parler en langue, ça vient de l'esprit, et c'est au niveau de votre esprit, ça vient de l'intelligence, même si tu ne sais pas quoi ou comment, quand tu parles en langue, tu parles exactement comme il faut. Tu pries exactement ce qu'il faut et tu appelles exactement ce qu'il faut sur la situation. Donc c'est un moyen qui nous a été donné et à utiliser. C'est aussi un moyen de rendre grâce à Dieu. Hein, 1 Corinthiens 14, verset 15 à 17, c'est que quand tu parles en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Donc c'est un moyen de louange, un moyen de reconnaissance envers Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 15 à 17. Hein, tu rends d'excellentes actions de grâce. C'est aussi un moyen de s'édifier spirituellement. Hein, comme j'ai dit avant, 1 Corinthiens 14, 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Lui-même. Et en fait, l'idée que Dieu donne ici, c'est que quand tu parles en langue, tu recharges tes batteries toi-même. Hein, c'est pas recharger, il y a cette image de recharger ses batteries. Tu es là, peut-être tu es un peu affaibli, peut-être tu ne te sens pas très chaud, hein. Des fois il y a des moments où on ne se sent pas forcément au top, mais quand tu parles en langue, la Bible dit que tu purifies toi-même, hein. Tu te recharges. Donc tu n'as pas besoin toujours d'aller auprès de quelqu'un pour dire où tu mets parce que c'est un peu dur. Donc tu parles en langue et tu te rends compte qu'en parlant, quand tu t'édifies, ça se recharge petit à petit et tes batteries commencent à reprendre et ça commence à repartir. Hein, c'est un moyen d'édification et c'est aussi un stimulant pour votre foi. Jude 20 dit « Édifiez-vous sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Hein, » donc notre foi, on en a besoin pour parler en langue, parce qu'il faut déjà croire que c'est Dieu qui nous fait parler. Mais ensuite, quand on parle en langue, on prie par le Saint-Esprit. Hein, et donc ça nous édifie. Ça nous édifie. Et la parole de Dieu nous montre que le parler en langue, c'est quelque chose que nous devons pratiquer. Que nous devons pratiquer dans notre vie personnelle et que nous devons aussi pratiquer en public. Et il y a des enseignements qui sont donnés dans 1 Corinthiens 14. Et notamment, Paul dit que je prierai par l'esprit, mais aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu remarques par l'esprit, comment celui qui est assis dans la maison auditeur répondra-t-il amen à tes actions de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc on voit que là, Paul quand même met un petit peu, fait un peu la part des choses, en disant oui, on peut parler en langue dans l'assemblée, mais c'est pas, vous ne pouvez pas tout faire en langue parce que ça ne réunit pas les autres, ça vous édifie vous-même. Hein? Donc il faut parler en langue, mais il faut aussi parler avec l'intelligence pour que les gens qui sont autour de nous soient bénis. Donc la majeure partie en fait du parler en langue consiste à nous édifier nous-mêmes. Hein? C'est un outil que Dieu nous a donné, qu'il a mis à notre disposition pour que nous puissions nous fortifier, nous édifier, nous remotiver, nous stimuler nous-mêmes. Donc c'est pas qu'on n'a pas le droit de parler en langue à l'église, non pas du tout, mais c'est qu'il ne faut pas non plus maintenant prendre les choses en l'envers et vraiment on va parler de langue. Et j'ai vu parfois des gens qui s'amusaient à se parler en trop en langue, soi-disant, mais non, ce n'est pas l'usage public. Hein. L'usage public, normalement, c'est que les hommes ne comprennent pas ce que tu dis. Donc même si l'autre aussi, par moment, ne comprend pas ce que toi tu dis parce que tu dis des mystères, il n'y a que Dieu et toi, c'est ton langage codé personnel. Hein? Des fois, il y a des langages codés qu'on se fait, et celui-là, il est un. On ne peut pas le pénétrer, personne ne peut décoder ça. Il n'y a que Dieu qui comprend.
Amen.
Il n'y a que Dieu qui comprend, et c'est entre lui et toi. Donc quand les gens, des fois, s'amusent à se faire comme s'ils se parlaient, moi, je ne crois pas parce que c'est pas biblique. Hein, je crois que la scrime. Hein. D'accord ? Il ne faut pas non plus s'amuser. Ce n'est pas des jouets, c'est quand même sérieux. D'accord ? C'est une bénédiction, c'est une richesse, mais il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça, il faut l'utiliser. Hein. Mais après, il ne faut pas non plus tourner au ridicule des choses. Franchement, il faut que les gens, ils sont là, ils font leur petit truc, pourtant ça leur fait du bien, mais en fait, si c'était vraiment ça, ils pourraient nous dire en français qu'est-ce qu'ils ont reçu. Hein, parce qu'ils auraient compris quelque chose. Hein. Ok ? Vous savez, il y a trop de choses qui se font au nom du Saint-Esprit, des fois, quand même si j'ai dit comme tout à l'heure que le Saint-Esprit agit de certaines manières, il faut le reconnaître, mais il ne faut pas non plus mettre l'étiquette Saint-Esprit sur tout le monde. D'accord ? Moi, je crois fondamentalement que l'Esprit de Dieu peut faire des choses complètement délirantes pour notre pensée humaine, mais la parole de Dieu déclare que Dieu est un Dieu d'ordre.
Amen.
Et même si son ordre n'est pas l'ordre humain, quand il fait quelque chose, le Saint-Esprit qui est en toi en témoignage que c'est lui qui est en train de faire. Même si ta tête te dit mais c'est quoi le bazar là, le Saint-Esprit te dit c'est lui, t'inquiète pas.
Amen.
Mais quand ton esprit tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas là, à un moment donné, il faut dire non, moi je ne rentre pas dans ce truc-là, c'est pas le Saint-Esprit.
Amen.
La manière dont Dieu nous dirige, bien aimé, on en parlera un petit peu plus tard. La plus grande manière que Dieu veut dans le Nouveau Testament, c'est par son Saint-Esprit dans notre esprit. Donc en nous, on est capable de discerner est-ce que c'est le Saint-Esprit ou pas. On n'a pas besoin de faire un standard avec une liste de ce que le Saint-Esprit peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, parce que sinon, ce serait le limiter. Il peut faire des choses complètement délirantes, je le répète, et j'ai dit des choses parfois qui parfois peuvent nous défier un petit peu dans nos pensées, mais après, vous voyez les fruits que ça produit, vous voyez que le nom de Jésus. Maintenant, il y a d'autres gens qui font des trucs juste pour soit vous impressionner ou soit qui s'excitent eux-mêmes et les trucs, vous voyez, en fait, il n'y a pas de fruit, il n'y a rien de bon qui est produit. Hein, c'est juste des espèces de manifestations là et puis on s'amuse, on s'éclate, mais il n'y a rien de ça. Et parfois, vous pouvez vous sentir mal à l'aise. Et vous savez, ce n'est pas tous les gens qui se proclament prophètes ou évangélistes ou serviteurs de Dieu qui font vraiment l'œuvre de Dieu. Hein. Il y a des gens qui font aussi du cinéma, qui font des histoires. Et autant que Dieu désire que son peuple, de notre temps, nous entrions dans une dimension beaucoup plus élevée de sa puissance et de sa gloire, mais autant aussi il désire que nous n'entrions pas dans les, j'allais dire un mot pas très bien, mais dans les bêtises que d'autres font, soi-disant, au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu ne mettra pas longtemps sa signature, et le temps vient où on verra de nouveau la différence entre ce qui sert Dieu et ce qui n'a fait pas.
Amen.
Et nous voulons entièrement recevoir tout ce que Dieu a préparé, mais en même temps que je dis ça, je dis aussi que je veux totalement rejeter tout ce qui n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit.
Amen.
Même si on fait semblant, même si ça ressemble, et même si ça paraît de ne pas être grave, hein, peut-être que ce n'est pas grave de faire comme si, mais moi je ne veux pas aller comme si, je veux le vrai, je veux la réalité, je veux le véritable, la puissance du Saint-Esprit et la gloire de Dieu.
Amen.
Et rien d'autre.
Amen.
Rien d'autre. Amen.
Amen.
Alléluia. Donc le parler en langue, je vais vous expliquer aussi que ça vient dans votre esprit, hein, donc c'est un don, c'est quelque chose de spirituel, mais c'est quand même vous qui parlez. Hein, c'est pas le Saint-Esprit qui ouvre ta bouche, qui bouge tes lèvres, qui bouge ta langue. Le Saint-Esprit met ça en toi. C'est là en toi, mais toi tu dois ouvrir ta bouche et tu dois laisser ça sortir. C'est toi qui dois parler. Et le parler en langue, ça nous est donné comme quelque chose qu'on, entre guillemets, qu'on maîtrise, qu'on contrôle. D'accord, c'est un cadeau que Dieu nous fait, mais c'est nous qui pouvons l'utiliser ou ne pas l'utiliser. C'est pas le Saint-Esprit qui tout d'un coup nous fait parler comme ça. Au milieu de nous, pourquoi c'est nous qui disons, bon, je vais parler en langue et vous n'êtes qu'à parler en langue. Ça jaillit de votre esprit, c'est pas vous qui le produisez, mais c'est vous qui le déclenchez et qui l'arrêtez. Hein, à tout moment, vous pouvez parler en langue ou ne pas parler en langue. Ok, et ça, c'est important à comprendre parce que des fois, les gens sont là comme ça. Et ils attendent de parler en langue. Non, ça ne marchera pas. Hein, le parlant, il faut le recevoir, c'est vrai, il ouvrir la bouche. On s'attend à ce que ça rentre en nous. Mais en gros, tu sens que c'est là, et puis il faut que par ta foi, tu commences à bouger les lèvres, et puis tout d'un coup, tu vois que ça sent et que ça part. Si tu ne commences jamais à parler, tu parleras jamais en langue. Parce que c'est pas Dieu qui va faire ta bouche bouger, je crois. Hein, et c'est pour ça qu'il faut la foi. Parce que quand tu sens que ça chauffe à l'intérieur, maintenant, il faut que ta foi se mette en action pour reconnaître, ok, Seigneur, j'y vais au-dessus, et je commence à parler. Amen. Et vous savez, c'est pas au milieu du. La rue, au milieu du travail, quand vous êtes en réunion de travail, vous êtes en train de parler de choses que tout d'un coup vous allez commencer à éclater en langue, c'est pas vrai, vous le contrôlez. D'accord ? Et même si c'est l'onction de Dieu vient sur vous, et on peut prophétiser en langue parfois, et donc ça chauffe un peu en nous, dire ah, je ne sais pas taire, mais quand même tu peux, c'est toi qui ouvres ta bouche et qui laisse ça sortir, et qui peut aussi fermer ta bouche. Et la Bible déclare que l'esprit des prophètes, l'esprit des prophètes, autrement dit, que le prophète a cette capacité de parler ou de ne pas parler. D'accord ? L'Esprit de Dieu nous donne les choses, hein, et les dons du Saint-Esprit, c'est pareil, l'Esprit de Dieu nous donne en nous, mais c'est à nous de les activer, de les exercer. Hein. C'est pour ça que Paul pouvait dire je parle plus que vous tous, c'est pas que Dieu l'a béni plus que les autres, c'est que lui, il a pratiqué ça. Et nous devons pratiquer bien aimé. Et plus vous le pratiquez, plus vous allez voir que c'est quelque chose de naturel pour vous. Et vous sentez que ça se développe, vous sentez que ça coule, et de plus en plus, c'est une bénédiction dans votre vie. Hein, des fois, au début, on est juste des petits sons comme ça, mais après, quand tu commences à parler, c'est un langage naturel. Et t'as même l'impression que tu peux faire une discussion comme ça. Et c'est à nous de développer. Quand Dieu nous fait un don, quand il nous donne quelque chose, c'est jamais parfait, c'est jamais à maturation. Il nous donne quelque chose d'excellent, qui est puissant, qui est béni, mais c'est à nous de le prendre et de l'exercer pour qu'on puisse devenir plus excellent dans ces choses-là. Amen. Donc il faut exercer de parler en langue, et nous devons le développer jusqu'à ce que nous sentions vraiment à l'aise. Et on peut parler en langue, comme je dis, dans notre esprit, tout en faisant autre chose aussi. Alors comment recevoir ça? Eh bien, il suffit de s'approcher de Dieu et de lui demander. Hein, on a vu déjà dans la première partie ce passage, j'ai dit, si vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort présent Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent, tout simplement. C'est juste de le demander et puis de recevoir. Et le Saint-Esprit demeure en nous. Vous savez, moi j'ai reçu le parler en langue et en fait le baptême du Saint-Esprit. J'étais à la maison chez mes parents, j'avais 12 ans. On était dans la chambre avec ma soeur et puis on chantait des louanges, tout ça. Et en fait, je sentais que c'était un peu spécial à ce moment-là. On était vraiment bien, on était là-dedans. Et puis d'un coup, j'ai commencé à parler en langue et là, notre maman est venue, elle a dit, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous faites comme, enfin, vous faisiez du bruit, quoi, dans le sens qu'elle n'a pas compris. Et puis, aussi, on a loué Dieu ensemble parce qu'on a vu que c'était le Saint-Esprit qui était venu. Puis j'ai été baptisé le Saint-Esprit comme ça, tout seul, enfin, tout seul, à la maison, hein, sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Mais je désirais ça ardemment. Hein. En fait, j'ai reçu le Seigneur, j'avais 11 ans, j'étais en vacances avec des chrétiens, après une vacance, et vraiment nous parler de Jésus. Et j'ai reçu le Seigneur pendant ces vacances-là. Et quelques semaines après, ma maman, qui était dans une église un peu traditionnelle, aussi, elle a été conduite vers une église un petit peu plus dans le mouvement du Saint-Esprit. Et à chaque fois, elle m'a senti la présence de Dieu, et je me disais, il faut que j'ai ça. Et à un moment donné, ben, ça y est, j'ai reçu simplement. Parfois, il y a des gens qui ont un peu des petits problèmes théologiques parce qu'ils disent non, il faut d'abord être baptisé, donc, et après, on prie pour vous et vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Mais vous savez, il ne faut pas trop se poser la question, c'est lui qui donne les dons et comme il le veut.
Amen.
Quand il le veut et de la façon dont il le veut. Amen. Le don, nous l'exerçons, mais c'est lui qui le donne, il fait comme il veut. Donc, moi, j'ai le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau, je suis baptisé d'eau après. Mais bien sûr, c'est pas un souci. D'accord ? La seule condition, c'est d'être né de nouveau et puis de se rendre disponible à ce que Dieu puisse faire cette œuvre en nous. Et quand c'est ça, il le fait. Amen. Et moi, je veux dire vraiment pour vous que vous le receviez. Alors, comment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit ? Comment recevoir une nouvelle dimension du Saint-Esprit ? Eh bien, première chose, Dieu nous l'a déjà donné. Hein ? J'ai dit que tout était déjà accompli depuis la croix et Dieu nous l'a donné. Et il nous a déjà donné le Saint-Esprit. Jésus a dit que je vous laisse un consolateur. On ne va pas reprendre. On a vu tous les versets qui parlent de la promesse. C'est clair dans la Bible. On a le Saint-Esprit, il est disponible. Donc déjà, ayez foi, c'est disponible. Vous n'avez pas besoin de le mériter. Vous n'avez pas besoin de chercher ou de convaincre Dieu. Vous avez le Saint-Esprit. Hein? Et quand Paul est arrivé là-bas, chez ces chrétiens, il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Sous-entendu, il est disponible, est-ce que vous l'avez reçu? Donc, il est là, vous pouvez le recevoir. Donc, la condition, c'est d'être né de nouveau. Ça, on l'a déjà montré, c'est clair. La nouvelle naissance nous ouvre accès à toute la bénédiction, tout l'héritage du royaume de Dieu, y compris le baptême du Saint-Esprit. Après, autre chose, c'est n'ayez pas peur. Parce que souvent, les gens ont un petit peu peur quand on parle de baptême du Saint-Esprit ou de parler en langue, parce qu'on nous a baratiné beaucoup de choses qui, en partie, sont vraies, qu'il y a des choses occultes qui se font, qu'il y a des gens qui parlent en langue, là, qui font n'importe quoi avec ça. Et c'est pas parce que le diable imite et fait n'importe quoi que c'est pas Dieu qui a créé. Et vous savez, tout ce que vous voyez que le diable fait, là, dans son monde spirituel, hein, il fait que de copier. Le diable n'a pas le pouvoir créateur. Donc si le diable utilise à mauvais escient certaines choses, il ne les a pas créées, c'est-à-dire que Dieu déjà avait créé ça pour un bon usage, pour un bon but. Donc en tout cas, il ne faut pas faire la louange avec les instruments et puis pas tout ça, parce qu'il y a des rockers là qui sont drogués et qui emmènent les gens dans des bêtises. Ben, eux, ils l'ont mal utilisé, mais Dieu a créé la musique et les instruments pour qu'on se réjouisse et qu'on adore. Amen. Et quand on est dedans, il ne faut pas trop faire les miracles parce qu'il y a des guérisseurs qui font n'importe quoi. Mais oui, mais c'est pas pour autant que la guérison n'est pas la volonté de Dieu.
Amen.
Amen. Donc, osons le défi de d'amener la lumière, la vérité de la parole de Dieu. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu veut vous donner de bonnes choses. Et aussi, il ne faut pas avoir peur que ce que vous dites, ça ne vient pas de Dieu. Hein, parce que la Bible, il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Tout comme un père ne donne pas un caillou à manger à son enfant, ou un serpent, ou un scorpion. De la même façon, Dieu ne va pas vous donner autre chose. Si vous demandez le Saint-Esprit, si vous êtes dans la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit que vous recevrez. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de mauvais dans le royaume de Dieu.
Amen.
Ok, bon, il faut rassembler les conditions. On est sur la parole, s'attendre à Dieu, désirer le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il va vous donner d'autre? Il va vous donner le Saint-Esprit. Et le diable n'a rien à faire dans la présence de Dieu.
Amen.
Donc si tu es dans la présence de Dieu, le diable n'a rien à faire là et il ne peut pas s'immiscer et tu ne risques pas de parler de la part du diable parce que tu es un enfant de Dieu né de nouveau en plus. Amen. Donc pour ne pas craindre non plus, il faut laisser sortir. Et n'ayez pas peur, mais ayez la foi pour recevoir et pour laisser ça sortir. Donc comme j'ai dit à ceux, reçois. Et maintenant que vous recevez, vous commencez à parler. Dans tous les passages qu'on a vus, on a dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler. Hein? Donc quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, tout simplement, vous commencez à parler. C'est pas qu'on invente, c'est pas non plus qu'on répète, j'ai vu des choses des fois bizarres aussi. Hein? C'est pas parce que tu dis ou quoi, mais c'est une fois du chemin quand même. Il y a des choses qui paraissent spirituelles, mais en fait, c'est des bêtises. Le parler en langue, c'est pas répéter ce que dit l'autre.
Amen. Amen.
Parler en langue, c'est pas maintenant, je dis ok, vous avez besoin du Saint-Esprit, répétez après moi, Colaba.
Alors tu m'appelles Colaba,
je sais pas quoi. Ça, c'est pas parler en langue. Hein.
Amen.
Ce n'est pas parler en langue. C'est répéter des syllabes, c'est répéter des mots. Ce n'est pas parler en langue. Parler en langue qui vient de ton esprit et puis il jaillit et tu le laisses sortir par ta bouche.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc, on va là. Peut-être que c'est bien joli, c'est bien amusant, mais ce n'est pas comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit.
Amen.
Amen. Amen. Et si on veut que ce soit vraiment un parler en langue du Saint-Esprit, hein, c'est des fois qu'il y a des gens qui croient qu'ils l'ont reçu de cette façon-là, et puis quand ils sont là et qu'il y a des moments comme ça dans la vie, ils tendent l'oreille pour écouter, et puis ils essayent de répéter ce que dit l'autre, mais eux-mêmes ils ne sont pas capables de parler en langue. Alors que si tu le reçois, c'est en toi, ça jaillit, et toi-même tu ouvres ta bouche et ça vient, tu n'as pas besoin d'écouter ce que l'autre a dit pour le répéter.
Amen, amen.
D'accord. Hein? J'ai dit à la porte, Dieu a mis une flamme sur chacun d'eux, c'est chacun individuel. Et ce que le voisin a reçu, c'est pas. Bien sûr, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue, mais Dieu a quelque chose de spécifique, exactement désigné pour toi et toi seul. Donc, c'est pas en copiant ce qu'a fait l'autre que ça va marcher. Et ça, c'est vrai pour le baptême du Saint-Esprit, c'est vrai dans tous les domaines de la vie de la foi et dans le ministère. On peut s'inspirer des bons exemples, mais c'est pas parce que tel grand ministère fait un geste ou dit certaines phrases dans son ministère et que ça bénit les gens qu'on va s'amuser à dire les mêmes phrases parce que ça ne produira rien du tout. Hein? On ne peut pas essayer de se donner un air comme ça. N'ayez pas peur, Dieu est vraiment capable de créer une diversité infinie de choses. Il n'est pas limité dans son imagination et il veut faire avec vous individuellement des choses individuelles, spécifiques et il veut se révéler aux gens à travers vous d'une manière toute spéciale, parce que vous avez différent. D'accord ? Même si on est en train de digital, personne n'a la même. Vous imaginez ? Tout le monde qui existe sur la Terre, on a tous notre signature, notre empreinte spéciale, qui fait qu'on peut nous reconnaître de façon infaillible. Et de la même façon, on peut se ressembler physiquement un petit peu, mais nos empreintes, elles sont différentes. Et de la même façon, notre expérience avec Dieu peut se ressembler, mais quand même, il y a quelque chose de spécifique pour chacun. Alors, on ne peut pas seulement vivre comme l'autre ou comme quelqu'un d'autre. Il vaut mieux, bien aimé, que nous cherchions la réalité et être vraiment rempli du Saint-Esprit, être vraiment couvert de la puissance de Dieu et pour faire les œuvres qu'il a prévues exactement pour nous. Et c'est là qu'on fait une bénédiction. Hein? Une bénédiction, ce n'est pas de faire seulement comme les autres, c'est de vivre vraiment la parole de Dieu. Donc vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit et encore un petit conseil, c'est de ne pas se mettre non plus la pression. Parce que des fois, on se stresse soi-même. Et là, je parle, ça ne marchera pas. Relax, calme-toi. Restez tranquille. S'assure et reçoit. Vous savez, quand on reçoit quelque chose, en général, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Okay, on se met juste en position de pouvoir recevoir. Même si vous devez avoir un cadeau, les gens sont là, ils ont le paquet. Vous ne faites pas un effort extraordinaire pour attraper le paquet. Ils vous le tendent, vous avez juste à le recevoir. Vous tendez la main, vous recevez et vous en bénéficiez. De la même façon, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. Il veut nous baptiser dans le Saint-Esprit. Et il y a encore beaucoup d'autres choses, mais déjà, ces choses-là, c'est fondamental et ça nous concerne tous. Et Dieu veut le faire. Donc on a juste à le recevoir. Ça n'a pas besoin de le mériter, c'est Jésus qui a déjà fait. C'est comme si parfois c'est quelque chose de gratuit, c'est parce que quelqu'un d'autre a payé. Et pour vous, si toute la bénédiction et toute la grâce de Dieu est disponible, c'est parce que Jésus a déjà payé. Et parce que Jésus est à la croix il y a 2000 ans, tu n'as plus besoin de payer quoi que ce soit, tu as juste à le recevoir par Amen. Si vraiment nous voulons recevoir la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ou un renouvellement aussi dans le Saint-Esprit dont on a besoin, et des fois on en a besoin, pas pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des périodes où on est bien, vraiment bouillant dans l'esprit, et des fois il y a des moments aussi où on sent que c'est un petit peu plus difficile. Et ça fait un petit peu partie des circonstances qui nous amènent parfois à ça, tout ça parce qu'on a besoin d'apprendre, de grandir et de pratiquer régulièrement pour que petit à petit, au lieu d'avoir des pics où ça va bien, des pics où ça va mal, on commence à demeurer et puis maintenant à aller de plus en plus loin. Mais même quand tu sens que ça te refroidit, la bonne nouvelle c'est que Dieu veut te remettre un petit coup, veut te rafraîchir. Et puis, comme Paul a dit à Timothée, ranime ce moment foi. Alors, dis, Seigneur, je veux, je sais que j'ai reçu le Saint-Esprit, je sais que tu veux me bénir. Et bien, Seigneur, je sais que ça chauffe, quoi. Je veux rester bouillant, je veux être ranimé. Et Amen. Dieu va vous renouveler dans la puissance.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Ça vous intéresse, hein?
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.